FM.
Trouver un taf, une sortie pas chère ou gérer ses révisions. Tous les jeudis, j'ai la ref. À 13h et en direct. Avec Fadi.
Bonjour, 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 bienvenue les amis sur le 101.5 FM, je suis super content de vous retrouver. Nous sommes le jeudi 25 janvier, il est 13h et tous ensemble on vous partage des bons plans et des astuces aujourd'hui sur cette heure. Je m'appelle Fadi si vous découvrez cette émission pour la première fois et vous rejoignez J'ai la ref, une émission pleine de bons plans, pleine d'astuces avec une belle équipe et un invité normalement sur chaque émission pour vous partager des actualités. Aujourd'hui, il se passe plein de choses et je vais prendre le temps de vous le dévoiler. Déjà, il y a beaucoup de monde, beaucoup de retours à la suite de ce démarrage du mois de janvier. Je vous présente l'équipe aujourd'hui. Juste avant, on est en live sur les réseaux sociaux, enfin Fadi Off et J'ai la ref comme d'habitude, mais il y a une nouveauté contente sur je sais plus lequel des deux. Suzanne, tu vas pouvoir nous le dire, il y a une caméra maintenant.
Ouais, sur le compte Insta Fadi Off.
Ah, c'est le mien.
Vous pouvez nous voir, ouais.
Narcissique.
Coucou. <Ouh. rire>
On essaie d'ajouter de la vidéo pour que vous puissiez poursuivre l'interaction avec nous. Bien sûr, vous participez avec nous tout au long de l'émission. Présentation de l'équipe aujourd'hui. Il était là depuis le début de la saison. J'ai dit qu'il y avait des grands retours. Non, lui, il est là depuis le début de la saison. Clément B, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Comment ça va?
Écoute, très content du retour de certains membres de l'équipe. Ça fait très plaisir.
On dirait qu'on les voyait de très très loin, de l'autre côté, ouais, de la Corse, et là ils ont réussi à...
La dernière fois qu'on les a vus, c'était en 2023.
Mais oui, à l'époque, ça date. Et ceux qui reviennent de 2023, il y a Clément T. Bonjour Clément, et bonne année.
Eh oui, bonjour tout le monde, parce qu'il n'est jamais trop tard. Bonne année à tout le monde.
Comment ça va?
Bah, ça va super bien. Moi aussi, je suis très ravi de vous retrouver. Ça faisait très très longtemps, donc... Très, très content.
Le retour du monde étonnant dans quelques instants, oui. L'actualité insolite en France et dans le monde. Elle revient aussi après une longue période d'examen, de partiel, de dossier. Bonjour Héloïse.
Salut.
Comment ça va?
Ça va, ça va.
Bonne année aussi.
Bonne année aussi, oui.
Du coup, période d'examen, tout ça, comment ça a été, sans parler des résultats, comment ça a été toi? C'était un gros taf et tout, finalement?
C'était assez intense, mais c'est fini, donc je suis contente.
T'as soufflé pendant une heure. T'es partie en vacances un peu pour décompresser ou alors t'as réenchaîné sur le
non,
nouveau
semestre?
Non,
même pas, non.
Même pas.
Non, j'ai profité de ma famille et tout pour Noël et voilà.
Rien que ça bosse.
Voilà.
Avant de vous présenter le sommaire du jour, on accueille notre invité de l'émission. Il est réalisateur. Alors, sur Insta, je vous ai mis réalisateur cinéma. C'est un peu mal dit, c'est réalisateur indépendant parce que dans la réalisation, c'est visuel, mais il y a tout type de format. Mais en tout cas, il est angevin, c'est le plus important. Il réalise pas mal de productions à droite et à gauche et surtout, il met en avant les personnes qu'on voit le moins, les personnes qu'on entend le moins. Et ça, c'est une des forces de son métier. Tariq Bensala, bonjour.
Salut tout le monde.
Comment ça va?
Bah écoute, très content d'être là.
Très content de te réavoir à la radio, ouais, parce que t'as fait des petits allers-retours ici. Aujourd'hui, on parle d'un nouveau projet, d'un gros documentaire que tu vas sortir,
ouais,
qui s'intitule Le silence des autres, si je me trompe pas.
C'est ça.
Réalisé avec Daoud Tatou, il me semble.
Ouais, tu t'es bien renseigné.
Je me suis bien renseigné. Un documentaire qui parle d'énormément de thématiques, mais la principale, si je me trompe pas, c'est la mise en avant de l'autisme via différents publics. Et c'est le thème principal déjà.
Ouais, c'est ça. En gros, c'est parler de migration.
Par l'immigration,
on explique, ouais, pourquoi les familles qui viennent d'Afrique viennent en France pour pouvoir placer leur enfant et sauver leur enfant.
Et nous, on a trouvé que c'était déjà une thématique importante, bien sûr, mais le fait d'avoir un film dédié à ça, c'est pas commun, et surtout, ouais, angevin, c'est encore moins commun. Et on est dans le cadre de Premier Plan, donc autant en profiter pour parler cinéma. Voilà, donc très content de te réavoir en titre pro et à titre perso aussi, hein, faire revenir les amis et la famille, ça fait plaisir. Et tu es en live, toi, sur ton compte TikTok.
Ouais, c'est ça.
Tariq Bensala aussi.
Tout court.
Tout court.
Ouais,
donc si vous avez des questions sur peu importe les plateformes, c'est le moment. Suzanne vous répond sur nos réseaux à nous et Tariq interagit avec vous sur son TikTok. Bonjour Suzanne.
Bonjour à tous. Au programme aujourd'hui dans J'ai la ref, on va commencer par le journal. Mais un journal qui recense les actualités atypiques et qui nous rappelle à quel point notre monde est étonnant, présenté par Clémenté. On va aussi pouvoir échanger avec notre invité Tariq Bensala qui est réalisateur. Et puis comme à chaque fin de mois, on va débattre ensemble autour d'un thème qui sera l'orientation. Notre partenaire du jour c'est Unicité. Fadi est allé à leur rencontre pour parler des ambassadeurs santé. On a aussi des actus à vous partager pour le mois prochain. Et on terminera l'émission en beauté avec le jeu du jour de Clément B. On espère que vous êtes prêts. L'émission bilan du mois de J'ai la ref, c'est maintenant. Tous les jeudis, J'ai la ref sur Radio G.
Je suis fan de ces sommaires, je suis fan de l'évolution de cette émission, je suis fan de vous tous. Les amis, on démarre cette émission de fin de mois avec votre tour d'actualité insolite, c'est le monde étonnant.
Extraordinaire, insolite, inattendu, le monde étonnant de Clément T.
Bonjour Clément.
Eh bien, rebonjour tout le monde. Et puis, donc, voilà, tout d'abord, meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Nouvelle année pleine de rêves et de bons plans, bien entendu.
Bien entendu.
Avec J'ai la ref. Rebonjour à Tariq. Bienvenue dans l'émission. Salut. Et je sais que tu as reçu beaucoup de messages et de courriers, Fadi. Les gens étaient inquiets. Mais où est Clémenté? Est-ce que le monde étonnant, c'est fini? Fini le monde étonnant? Non, mais vous rigolez ou quoi? Le monde ne cessera jamais d'être étonnant. Et je vais vous le prouver. On commence par une histoire plutôt mignonne pour entamer cette nouvelle année. En Angleterre, un petit garçon de 10 ans avait perdu son jouet fétiche, à savoir un petit Lego à son effigie. Pauvre petit bonhomme. Il l'avait emmené à l'école pour le montrer à sa grand-mère après les cours. Mais le jouet a dû tomber du cartable sur le chemin. Bien qu'attristé, le garçon ne s'est pas découragé et a appelé la gendarmerie qui a carrément lancé une alerte enlèvement dans toute la région. Non, je plaisante. Un peu d'humour, en ce début d'année, ça ne fait pas de mal. En revanche, le garçon s'est démené pour retrouver son jouet qu'il a dessiné et pensait dessiner le Lego en question en donnant des détails sur la description et a promis une récompense de 2 livres sterling pour récompenser celui ou celle qui retrouverait son double en Lego. Le dessin a été placardé sur le chemin entre chez lui et l'école et a été partagé sur Internet. Et ses efforts ont porté leurs fruits puisque le jouet a fini par être retrouvé dans un parc par une fillette. Mais la maman, qui était très cupide, était prête à rendre le jouet non pas contre 2 livres, mais 500. Je plaisante, une autre blague de tonton Clément. Bien sûr, elle a refusé l'argent, mais la maman n'a pu empêcher les parents du garçon d'offrir des chocolats à la petite fille quand même pour la remercier. Cette histoire me rappelle un événement similaire qui m'était arrivé dans ma jeunesse. J'avais perdu mon ballon de foot et comme le garçon, j'avais fait un avis de recherche, mais le problème c'est que comme je dessine hyper mal, au final on m'a retrouvé un skateboard que je n'avais pas demandé du tout. Bon, du coup, je m'y suis mis, hein, pas le choix. C'est sympa, mais au bout de plusieurs chutes et fractures, j'ai compris que ça n'allait pas durer et que mon ballon me manquait un petit peu. Allez, on va aller aux États-Unis parce que c'est pas parce que c'est 2024 qu'il faut changer les bonnes habitudes, je suis obligé d'y passer. On suit un policier qui, comme tous les jours, a arrêté un chauffeur qui a commis une infraction routière. Une de plus, tiens. Mais c'est pas possible, ça. Moi, si ça tenait qu'à moi, il y aurait pas de points sur les permis. Une infraction et plus de permis à vie. Un point, c'est tout. Voilà. Est-ce que c'est exagéré? À vous de juger. Bref, le policier, après avoir fait immobiliser le véhicule, sort de sa voiture pour aller à la rencontre de cette racaille sans foi ni loi. Mais que ne fut pas sa surprise quand le policier s'est rendu compte de qui il venait d'arrêter. Et à votre avis, qui il a arrêté? Qui ça pourrait être?
Une personnalité?
Peut-être.
Un collègue à lui.
Oui, on se rapproche de...
Quelqu'un de sa famille, sa mère.
Un policier.
Oui.
Mais non.
C'est tellement logique.
C'est ça. Eh bien non, c'était Fadi, tout simplement. Il a profité d'un petit séjour aux States pour tester les bécanes locales. Il est parti d'un constat assez simple. C'est pas parce que je peux pas conduire en France que je peux pas le faire ailleurs.
Bien vu.
Tu as raison. Mais pour revenir à l'histoire, effectivement, c'est le policier a arrêté un collègue. Et plus que ça, puisque c'est son propre patron, qui l'a arrêté. Et donc le patron en question, il était quand même flashé 100 km/h au-dessus de la limite, ce qui est beaucoup. Mais le dilemme est là. Est-ce que tu restes pro et tu mets l'amende comme n'importe qui, ou est-ce que tu laisses ton patron partir pour éviter les mauvaises relations au bureau? Alors, comme je suis un investigateur de terrain, j'ai pu me procurer l'enregistrement de l'arrestation. Tango pour Charlie, je répète, tango pour Charlie. Arrestation d'une Range Rover couleur rouge sur la D8 pour excès de vitesse. Chauffeur de type caucasien, belle bedaine, roue flaquette, manque 3 dents. C'est bien simple, c'est le portrait de notre compte patron. C'est drôle, il a le même nom que lui en plus. Ah, je crois bien que c'est lui. Alors là, c'est Noël, les enfants. Là, je vais lui mettre tellement cher à celui-là et tout. Bref, le policier a donc choisi la première option et son supérieur s'est vu suspendu par sa hiérarchie. Et on reste sur le thème de la justice avec ma dernière info du jour puisque le tribunal de Nîmes a connu une plaidoirie pour le moins cocasse. Suzanne le sait mieux que quiconque. Quand on est accusé au tribunal, on fait ce qu'on peut pour se défendre. On dirait pas comme ça. On dirait pas comme ça, mais quand elle n'est pas en service civique, elle sème le trouble dans la société. En effet, une personne accusée a tout fait, non pas pour se défendre, mais pour aller en prison. Il n'a fait qu'aller à l'encontre de son avocat qui forcément faisait tout ce qu'il pouvait pour défendre son client et redire sa peine. Mais l'accusé était tenace et s'est accroché pour avoir la peine la plus lourde possible. Inconscience ou lucidité, à vous de juger également. Au bout d'un moment, l'avocat, il a lâché l'affaire. Limite, il en rajoute une couche. Bon, allez-y, mettez-le en prison, de toute façon. Et l'orange du marchand, c'est lui qui l'avait volé aussi. Et je crois que le petit Grégory, c'était lui aussi, soyons fous, pourquoi. Au final, la personne était condamnée et elle était très heureuse du dénouement. N'est-ce pas le plus important, finalement? L'avocat était partagé entre la frustration de la défaite et la satisfaction de son client, finalement. Bref, vous l'aurez compris, même en 2024, le monde continue de nous surprendre. Donc forcément, je serai ici pour vous en parler.
Oh, incroyable, merci beaucoup Clément, c'est dingue, bravo. Waouh, très beau retour. Très beau retour. Merci. Et re-bienvenue à la maison. Oh. Ah, je sais pas si vous la sentez, cette émotion là, un peu, oh, de, c'est de l'excitation. Voilà. Très heureux d'être avec vous tous. Clément B, tu tiens ton micro. Toi aussi, tu partages cette excitation?
Non,
la réponse
mais
va être bizarre. Hein.
La gratuité, de l'info sur Suzanne.
Et puis, on n'ira pas plus loin. Hein. On ira pas. Oui. Je suis innocente, déjà, t'inquiète. Seul. Mais oui, on n'ira pas plus loin. Suzanne, tu fais ce que tu veux, bien sûr, de ton temps libre. Répréhensible ou non. On va prendre le temps, les amis, d'échanger avec notre invité du jour, Tariq Ben Salah. Encore très heureux de l'avoir. Ça va toujours, Tariq?
Toujours.
Bouleversé, chamboulé, j'allais dire bouleversé, peut-être pas. Non, mais remué par toutes les infos là qu'on vient d'avoir.
Ouais. Surtout l'info du policier qui arrête son patron, c'est tellement drôle.
Et puis toi, t'as dit normal.
Normal. Bah oui, parce que tu dis, je t'attends à ça en fait. Ouais. Mais oui, c'est normal.
C'est normal.
Et on se pose la question, que va faire le gars?
Oui, c'est ça.
C'est une question d'éthique où tu te dis, bon, est-ce qu'il considère comme un citoyen lambda ou... Ouais. Ben non, mon gars.
Eh ben non. Il le dit, il a cravaché pour avoir son travail. Besoin. Il va faire tout jusqu'au bout. On va prendre donc le temps avec toi, Tariq, d'échanger dans cette émission sur le film Le silence des autres, juste après la pause musicale qui nous est proposée par Iseut, l'artiste, et le titre c'est Pause, tout simplement. Donc, on revient dans un instant sur le 101.5 FM. C'est avec Eddie Depréto. Et merci à vous de nous avoir choisi pour votre pause du midi. On revient dans quelques minutes. À tout de suite.
Je ne veux pas y faire face. Je préfère me fuir jusqu'à ce que je m'efface. Je préfère ne rien dire. Je préfère oublier. Je préfère me mentir. Être une chose qu'une chose. On nous dit tenir, toujours sourire. Pour qui, pourquoi jamais faiblir? Dis-tu, fais quoi pour pas périr? On nous dit même comment rire, comment faire genre pour se tenir. Toi tu fais quoi toujours pour obéir? Pose sur mon épaule tes peines et tes plaies. S'il le faut, je viendrai les penser. Pose sur mon épaule tes larmes s'il te plaît. S'il le faut, je viendrai les sécher.
Un fond de tristesse qui va me die, qui va me die. Pourquoi mes failles sont aussi claires là dans la grisaille? Une dernière larme, je me relève toujours fier. Quand j'ai la rage, mais plus de sourire en l'air. J'ai plus de harne là, et je désarme là, jusqu'à me faire mal. Et je m'entends plus penser que des trucs sales plein la tête. Je ne dors plus, je ne bois plus. Et voilà que mon cœur part en sucette. J'ai tout fait pour rien lâcher. Mais tu sais, toi tu connais comment vrai je suis épuisé. Pose sur mon épaule tes peines et tes plaies. S'il le faut, je viendrai les penser. Pose sur mon épaule tes larmes s'il te plaît. S'il le faut, je viendrai les sécher. On nous dit tenir, toujours sourire. Pour qui, pourquoi jamais faiblir? Dis-tu, fais quoi pour pas périr? On nous dit même comment rire, comment faire genre pour se tenir. Toi tu fais quoi toujours pour obéir? Pose sur mon épaule tes peines et tes plaies. S'il le faut, je viendrai les penser. Pose sur mon épaule tes larmes s'il te plaît. S'il le faut, je viendrai les sécher.
J'ai la ref avec Fahadi sur Radio G.
13h14, vous êtes sur le 101.5 en direct de l'émission J'ai la ref, toujours avec la même équipe, Clément B, Clément T, les deux en même temps, encore une fois, vous inquiétez pas, il ne pleut pas, c'est une vérité. Héloïse, Suzanne et notre invité Tariq Ben Salah, avec qui on prend le temps d'échanger.
J'ai la ref, l'invité de la semaine.
Tariq Ben Salah, réalisateur indépendant, c'est une chance en plus, enfin, c'est rare d'avoir des réalisateurs indépendants ici dans l'émission. Ici on va prendre le temps, hein, ce qu'on a dit tout à l'heure, d'échanger sur ton film Le silence des autres, donc ouais. On va pas longtemps s'épancher sur tout ton parcours. Pour ça vous pouvez aller voir sur un site internet, hein, tarikbensala.fr je crois,
c'est ça.
Il me semble, où vous pouvez voir vraiment la pluralité des films, surtout que tu as fait tout, quasiment toutes les formes, beaucoup de docu, ouais. Mais il y a des films, il y a des courts-métrages sur plusieurs thématiques aussi.
Ouais, c'est ça.
En tout cas, tu es réalisateur indépendant. Une des premières questions déjà sur le métier de réalisateur, quand, surtout en tant qu'indépendant, parce que souvent quand on produit des films, quand on est réalisateur, on a une grosse équipe, il y a des financements de partout. Toi, t'es indépendant, du coup, t'as ton propre matos. Combien de temps tu mets pour accumuler tout le matos pour pouvoir te dire, bah là, en fait, je suis réalisateur indépendant. Demain, si je veux, je produis un film, j'ai le matos nécessaire.
Franchement, je peux pas te dire parce que tu te poses pas cette question. En fait, pour devenir réalisateur, tu te fais la réflexion en te disant à quel moment je suis légitime pour réaliser. Y a beaucoup d'écoles, on avait déjà parlé de qui forment des gens à la réalisation. Moi, je trouve que c'est pas très très bien parce qu'on devient pas réalisateur du jour au lendemain. On devient réal quand tu connais un peu tous les postes et tu sais à quoi sert le poste. Moi, j'ai été cadreur, j'ai fait du son, j'ai fait de la lumière, j'ai fait un peu tout. Puis à un moment, le fait d'écrire m'a plu. Et puis quand tu réalises 1, 2, 3, tu peux considérer que t'es réal à partir du moment où tu connais bien les codes, tu sais t'entendre avec une équipe. Et puis après, quand tu continues à réaliser d'autres formats, là oui, après tu peux te considérer réal. Il y a des gens autour de moi qui sont réals, ils ont rien fait.
Ah,
il marqué
oui,
réalisateur.
Ils se disent réels. Ouais.
Ouais, mais après c'est pas péjoratif, mais voilà, t'as besoin aussi de. Tu peux pas dire que t'es footballeur si t'as fait qu'un match tous les 6 mois.
Ouais, si t'as joué avec un skateboard comme Clément, du coup c'est un peu compliqué.
C'est ça. Donc non. Après voilà, c'est moi je me considère réel parce que ça fait un bon moment. Je produis, je réalise, et puis après je valorise mon travail par de ce que je fais, parce que j'essaye d'expliquer par l'image. Alors je le dis souvent, je suis pas quelqu'un qui va taper une heure devant un amphithéâtre et parler du social, mais j'aime bien le raconter en image. Donc c'est un peu ma force, et puis c'est juste, c'est pas que cliquer derrière la caméra sur le petit bouton, mais c'est aussi un travail en amont et en aval. Et puis après, t'essaies de montrer ce qui plaît ou pas.
Donc là, l'idée à travers le film d'aujourd'hui dont on va parler, le silence des autres, le silence des
jeux. C'est ça, non, le silence des autres.
Silence ouais. des autres, c'est de mettre en avant ce que tu disais au début, hein, les familles qui arrivent en France, les familles immigrées, avec des enfants autistes,
ouais.
C'est ça. Avec tous les domaines que tu as pu aborder, toi, dans tes sujets, pourquoi ce thème-là, sur cette idée-là? Est-ce que c'est un thème que tu avais depuis un moment où tu t'es dit, là, cette année, c'est l'occasion d'en parler dans le cadre d'un festival spécifique, d'une année spécifique, et tu t'es dit, là, cette année, c'est cette thématique-là que je veux raconter, cette thématique que je veux mettre en œuvre?
Ouais. Alors, en fait, moi, il faut savoir, c'est que je suis un ancien travailleur social. Donc, j'ai beaucoup travaillé dans le handicap, et j'ai bossé avec le SAMU social et le 115 à Angers. Et forcément, le handicap, on le découvre aussi dans la rue. Moi, ce documentaire, il s'est fait vraiment par hasard. Je diffusais un documentaire qui s'appelle L'hymne à l'inclusion, qui a été produit par Prisme Autisme, par Tatiana M. Et je l'avais diffusé au Grand Rex. Et Daoud Tatou était venu me voir à ce moment-là. Alors Daoud Tatou, faut savoir, je sais pas si vous avez vu Hors Normes, de Reda Kateb.
Ouais.
Et voilà, Reda Kateb et Vincent Cassel. Et donc Reda Kateb joue le rôle de Daoud Tatou. Donc Daoud Tatou, il est venu me voir, il m'a dit, écoute, ton documentaire, je l'ai kiffé. Moi, j'ai un autre projet à te proposer. Donc, je fais la petite parenthèse. En tant que réal, en fait, c'est comme ça que tu construis les projets. En fait, parfois, tu as des commandes, comme ça, du jour au lendemain, ils te disent, écoute, moi, j'ai un projet, est-ce que ça t'intéresse? Après, libre à toi de choisir le faire ou pas. Donc, il est venu me voir. Je lui dis, écoute, pas de souci. Ça faisait en gros mon énième documentaire sur l'autisme. Mais moi, que je trouve hyper intéressant vraiment dans l'autisme, c'est très complexe sur le plan médical. Mais paradoxalement, c'est un truc qui m'a plu. Donc j'ai dit ok, on y va. Donc on s'est rencontré sur Paris, et puis il m'a dit écoute, moi je vais parler de ces familles qui quittent leur pays pour venir en France, et qui quand ils viennent en France, c'est la désillusion totale en fait. Et je lui ai dit écoute, comme ça c'est jamais fait, on va le faire. Parce que du coup on parle d'immigration, on parle de prise en charge en France qui sont forcément, la France elle a 40 ans de retard, voire même 50. Ouais. Et en plus de ça, c'est que paradoxalement, cette thématique a touché aussi les familles françaises. Mmh. C'est-à-dire, ceux qui viennent d'Afrique, ils viennent, il n'y a pas de place, mais les familles françaises, alors quand je dis françaises, hein, attention, hein, c'est eux-mêmes ne trouvent pas de place.
Oui.
Donc du coup, c'est deux sujets qui sont communs entre les deux publics. Donc moi, on y va. Et en plus, comme par hasard, cette année, il y avait lieu le premier salon de l'autisme au Cameroun. Donc en fait, l'Afrique avait cette volonté de dire, ok, on voit que nos citoyens sont bons, et ben on va faire en sorte que en Afrique, on va faire quelque chose. Parce qu'en fait, en Afrique, ils ont les outils, ils ont le personnel, ils ont la motivation, pardon, mais ils ont pas les outils.
Oui, il manque les ressources que vous, toi et l'équipe, vous pouvez apporter.
Alors pas moi forcément, parce que moi, même si j'ai bossé en tant que travailleur social, je le dis souvent, moi je suis pas quelqu'un qui est un pro de l'autisme, mais je m'y connais de par mon métier. Et puis la solution du documentaire, souvent quand on fait un documentaire, on traite le sujet et on essaye de trouver en gros une solution. Et là, comme la solution c'était le silence des autres, le silence des justes, l'association,
ouais.
C'était ok, on va le faire, mais nous, notre solution c'est on va les former là-bas, les professionnels, pour que les familles ne puissent plus venir. Et quand je dis ça, attention, ça veut pas dire que le silence des justes sont les gens qui sont les gars des génies.
Oui.
Non, eux, ils vont proposer des outils, former le personnel, et après, ils laissent les gens se débrouiller, en fait. Parce que, voilà, il y a beaucoup de gens qui quittent leur pays, qui ont un statut social confortable, et je le répète, confortable, mm-hmm. qui quittent tout, mais qui viennent en France. C'est
âge. Ouais.
Et pour finir, Daoud, il m'avait dit, une dame qui était venue le voir et qui lui a dit, je vous donne mon enfant, si vous le prenez pas, je me suicide, je prends le périph, je saute.
Ah oui, okay.
Donc en fait, c'est d'accord. Que des cas complexes. Si vous avez vu hors normes, en fait, ouais, c'est ça, c'est des cas complexes que malheureusement la société en France ne peut pas accompagner. Et c'est pas une critique quand je dis ça, hein. C'est juste
parce
que
c'est
deux moyens.
Ouais, ouais. C'est ça, ouais. De toute façon, donc, on pourra pas prendre le temps ici de débattre du pourquoi, du comment, de tout cela. Mais moi, il y a la chance que ce film, justement, arrive. Il y a combien de temps? Parce que dans la bande-annonce qui est sortie sur tes réseaux et un peu partout, on voit qu'il y a beaucoup de rencontres humaines, ouais. Beaucoup de témoignages, beaucoup de temps pris avec les différentes familles. Même pour elles, ça doit pas être forcément évident de raconter cette histoire. Combien il y a de temps entre l'idée et puis le démarrage de la production, depuis l'idée, pardon, jusqu'à ce jour où ça va être diffusé en salle?
Ouais, je vais dire un an et demi.
De recherche, contact avec les familles, rencontres.
Ouais, c'est ça. Ouais. Pardon. Ouais, c'est ça, un an et demi, parce que l'idée c'était de trouver des familles. Et quand tu construis un sujet comme ça, il faut obligatoirement que tu mettes, alors pas un protagoniste, mais quelqu'un qui vient aussi te dire, oui, t'as raison, mais.
Oui.
Et là, dans ce documentaire, on a interviewé une famille française. Et qui plus est, comme par hasard, c'est Nathalie, son frère, c'est l'ancien préfet d'Angers.
Ah ouais.
Trop drôle. C'est je dis OK, d'accord. Et Nathalie, voilà, on lui a posé la question. C'est très délicat de leur poser la question, est-ce que vous êtes prêt à filmer, à être filmé, à raconter votre histoire, parce qu'on a Aïssatou qui vient de Mauritanie. Elle l'a fait parce que c'était Daoud.
D'accord, ok.
Si ça avait été quelqu'un d'autre, elle aurait dit non.
Mais
lui a dit oui, est-ce que tu peux le faire? Oui, elle a dit oui.
Et puis il y a ce truc de confiance au-delà de juste du cinéma en tant que tel. C'est cette relation humaine aussi qui permet de mettre en avant. C'est comme un grand frère ou une grande sœur qui va soutenir et dire, je vais raconter ton histoire. Et là, comme tu disais au début, c'est le support qui est évolutif vu qu'on est via l'image, via le cinéma.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis moi, quand je fais ça, je les rencontre, on discute, j'essaie de sortir des petites blagues un peu nulles. Ouais. Mais je leur dis, écoutez, moi, j'ai pas un site internet, j'envoie un mail, j'envoie tous mes films et je leur demande de regarder puis de voir un petit peu comment je traite l'image. Et puis après, on s'appelle, ils disent ok, on y va, c'est parti.
Okay.
Donc non, après, voilà, c'est le plus complexe, c'est vraiment quand les gens échangent. Et que là, c'est des témoignages très forts, en fait. On s'en rend pas compte, mais tu te dis, c'est pas comme la fiction. Le documentaire, c'est du direct.
Ah bah oui,
tu peux pas demander à quelqu'un de recommencer quand son proche est décédé ou son enfant. Là, t'es tellement dans l'émotion que même si tu bafouilles, tu dis n'importe quoi, tu le gardes parce que c'est des moments forts dans le documentaire.
Des vrais moments de vie.
Ouais, ouais.
Autour de la table, les amis, Clément B, Héloïse et Suzanne, est-ce que vous avez une question pour notre invité Tariq Ben Salah, Suzanne?
Là, pour l'instant, il est diffusé en salle. C'est ça? Est-ce qu'il y a un objectif qu'il soit diffusé à la télévision ou comment ça se passe?
Ouais, ouais, en fait, on a, alors là, il est, comme le disait tout à l'heure Fadi, on est indépendant. Donc c'est nous qui proposons directement au cinéma et il y a des cinémas qui nous contactent parce que via les associations. Là pour l'instant on fait quelques diffusions partout en France. La télé, on a quelques pistes très très intéressantes parce que forcément sur cette thématique de l'immigration, on va parler de l'autisme, on parle de l'immigration et d'autres thématiques qui sont pas forcément faites volontairement et qui fait que les gens les intéressent. Et puis le silence des justes, c'est un juif, un musulman, donc forcément ça attire les médias. Donc nous on fait très attention parce que notre priorité c'est l'autisme et l'immigration. Donc là forcément le RN ils sont très contents quand on parle d'immigration. On a un truc en commun, c'est justement de, que ces gens restent là-bas, justement chez eux, pour qu'on puisse former les gens et surtout, surtout sauver leurs enfants. Parce que vraiment les, quand les parents font tout pour sauver leurs enfants malgré un statut confortable chez eux, là, tu dis ok. Et ce qui est marrant, c'est comme j'ai bossé au SAMU social, ben on rencontre ce public-là. Et l'État font pas forcément l'effort. Encore une fois, c'est pas une critique de dire oui, mais il est autiste, il est handicapé, nous on n'y peut rien. Ben oui, mais il y a un truc à faire, quoi. Voilà. Donc on n'est pas forcément d'accord. Mais du coup, c'est pour ça que ce film, je réponds avec son forcément te dire, j'avais envie de le faire parce que j'étais légitime de le faire et j'étais capable de le faire. Mais du coup, pour rebondir sur ta question, en fait, ce film est une sorte de maquette parce que là, on va faire le gros documentaire parce que il y a un deuxième salon de l'autisme qui va se faire et c'est au Maroc. Et l'idée, c'est qu'on fasse vraiment un gros film sur le Maroc et sur le Cameroun et de montrer l'évolution de ce qui a été fait parce qu'il y a un gros institut qui va se faire au Maroc, à Oujda, et c'est le plus grand centre d'Afrique qui va se créer sur l'autisme, qui a été créé par des donateurs de Ouma Charity qui coûte des millions et des millions. Et franchement le Maroc nous a laissé la porte ouverte pour venir filmer et,
c'est le début d'une belle aventure.
C'est une dinguerie, une grosse dinguerie. Donc c'est hyper intéressant, quoi.
Clément B, t'avais une question en plus.
Ouais, est-ce qu'il y a une difficulté à rassembler en tant que réal toute une équipe sur un thème comme ça qui est aussi touchant. Est-ce que je sais pas, il y en a qui disent c'est trop compliqué pour moi, ou il y en a qui se sentent pas légitimes, ou il y en a qui se disent je sais pas faire, etc. Est-ce que t'as eu des difficultés pour trouver une équipe, comme tu dis, les témoignages, trouver des familles, te renseigner sur cette thématique-là, même si tu viens quand même de ce milieu-là.
Non, pas forcément, parce que l'avantage c'est que Daoud connaissait les familles. Moi, la seule condition, je lui ai demandé de pouvoir interviewer une famille française, parce que c'est pas mal de faire la différence entre ceux qui viennent d'Afrique et ceux qui sont issus de France. Une fois ça m'est arrivé, j'avais réalisé mon premier long métrage sur l'autisme, c'était à Angers, c'était dans l'association Personnage qui est à Brissac, et j'avais un technicien qui était venu, parce qu'on avait plein de personnes autistes autour, mais autistes sévères, donc ça veut dire que la lumière, le son, la caméra, ils étaient hyper intrigués, et ils se mettaient devant nous. Il y en a une fille qui s'est tapé sa tête contre la porte, mais vraiment à plusieurs reprises. Et là, j'ai un technicien qui m'a dit non, mec, il faut que je sorte. Mais c'est normal, en fait. Tu vois, on juge pas les gens qui ont peur de l'autisme, entre guillemets. C'est à nous de nous sensibiliser et de faire l'effort de comprendre ce qui se passe auprès des familles. Et c'est pas forcément les familles de le faire. Mais ouais, j'ai eu vraiment, sur mes 15 ans de réal, je crois que c'est la première fois qu'un technicien me dit faut que je sorte. Parce que là, ça me fait vraiment flipper. Et même moi, j'avais peur. Si je lui dis j'avais peur aussi, du coup, j'avais peur que toute l'équipe sorte.
Ouais, c'est ça. que tout le monde s'enflamme.
C'est ça.
On redonne les informations pour ton film. Donc, Le Silence des Autres. Il est actuellement en Angers. Non, il sort bientôt.
Il sort le 8 février.
Le 8 février.
C'est ça.
Dans toutes les salles ou
non, juste au Pâté.
Juste au Pâté pour l'instant.
On remercie beaucoup Pâté parce que Pâté est un partenariat par rapport à ce film. Ils ont vraiment adoré l'idée. Donc, on les remercie.
Et donc, les places sont déjà en vente sur le Pâté, il me semble. Moi, j'ai trouvé un autre lien, je crois, que tu avais mis sur tes réseaux.
Oui, Event. Ouais, oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est sur mon lien, sur ma page Insta. Je crois qu'il y a aussi, il y a les filles de la com qui aussi lancent la com via Insta. Donc, ceux qui habitent d'Angers, forcément, ils vont voir la com passer.
Ouais, nous, bah, perso, c'est comme ça que je l'ai vu et sur ton compte également. On va redonner toutes les infos pratiques en fin d'émission pour pouvoir avancer sur les autres thématiques. Mais merci beaucoup d'être avec
merci
nous.
Merci, Tariq.
Je rappelle le film Le silence des autres sur la thématique de l'autisme et de l'immigration, assez couplé. C'est ce dont on parlait. Merci à vous, l'équipe, pour l'échange. On marque une légère pause musicale, mais juste avant, on va échanger sur une thématique, la thématique du mois. Donc, Suzanne, tu vas nous mettre en bouche ce qu'on va échanger après la mini-pause musicale.
Oui, ce mois-ci, à l'occasion de l'ouverture de la plateforme Parcoursup, on est allé interroger des jeunes sur l'orientation. Comment sont-ils accompagnés et comment appréhendent-ils leur orientation ? À l'unanimité, les jeunes ne se sentaient pas suffisamment informés sur tous les métiers existants. 50% des étudiants interrogés m'ont confié qu'ils n'auraient pas choisi les mêmes études s'ils avaient eu plus d'accompagnement en amont. Je me suis aussi renseignée sur le net et d'après une étude réalisée en 2022 par Impala, c'est une plateforme web dédiée à l'orientation, plus de 90% des élèves sont conscients de l'importance de l'orientation, mais presque un élève sur deux ne se sent pas suffisamment accompagné pour faire les bons choix. L'orientation, maintenant, c'est un réel sujet. Beaucoup débattent sur l'efficacité et l'équité autour des plateformes de candidature. C'est un moment difficile pour de nombreux élèves, une source de stress, de doute. C'est une période redoutable que les générations antérieures n'ont pas vraiment vécue. D'où ma première question. Selon vous, pourquoi aujourd'hui c'est galère de s'orienter ? On va faire du coup la petite pause musicale, comme ça vous prenez le temps de réfléchir et on en reparle juste après. Jeudi, j'ai la ref sur Radio G.
13h32, vous êtes toujours avec nous sur le 101.5 FM dans votre émission de référence. On vient d'écouter un extrait du groupe Super Léon avec le titre À minuit dans cette danse Super Léon qui sont passés dans l'émission Topette 18h10 sur cette même antenne. On poursuit notre tour des bons plans, des astuces de l'actualité. Notre tour de l'émission J'ai la ref, toujours avec la même équipe, Clément B, Clément T, Suzanne, Héloïse et notre invité, Tariq Ben Salah. On prend le temps, vous l'avez entendu avant la pause, d'échanger avec vous, c'est le débat du mois.
Au micro de Suzanne, sur Radio G. On reprend notre petit débat de fin de mois sur le thème de l'orientation. Ma première question était, pourquoi aujourd'hui c'est galère de s'orienter ? Ceux qui sont sur le chat ou qui nous écoutent sur les lives Instagram, vous pouvez bien sûr participer avec nous. Alors l'équipe, est-ce que vous avez une réponse à cette question ? Clément B ?
Bah déjà, en fait, je trouve que on se met beaucoup de pression. Enfin, on nous met aussi peut-être beaucoup de pression quand on a 16-17 ans. C'est-à-dire qu'on a 16-17 ans, on a fait peut-être un stage en troisième sur les métiers de l'avenir. En fait, on connaît pas vraiment le monde du travail. C'est-à-dire que peut-être, on sait ce que c'est l'école, etc. Par contre, la réalité de l'emploi, ouais, on la connaît pas. Et puis, on connaît pas non plus la diversité des métiers. Aujourd'hui, il y a encore des métiers qui se créent. Il y a 10 ans, t'aurais dit influenceur à Mondaron. Je pense qu'il t'aurait dit non. Donc je pense qu'en fait c'est aussi parce qu'on a c'est un manque d'expérience et on nous demande très tôt de choisir ce qu'on voudrait faire plus tard et on a l'impression tout de suite que c'est ce qu'on va faire toute la vie. Mmh. Alors que si on se dit que c'est, déjà on va tester, on va voir un peu, on va tâter le terrain, je pense que déjà on pourrait moins se mettre de pression. Donc je pense que ça joue.
Ouais, pour toi c'est trop pressé, trop de pression quoi. Et
puis tôt.
On prend pas assez le temps et trop tôt. Ouais. Un Clémenté.
J'ajoute ce que tu disais surtout sur la diversité. Je trouve qu'aujourd'hui, par rapport à il y a 10 ans, il y a beaucoup plus de métiers que ce qu'il y avait. Donc, ouais. Beaucoup plus de choix. Et je pense qu'on n'a pas assez de mise en situation et d'immersion, que ce soit même au collège, pourquoi pas, ou au lycée. Donc, en fait, c'est très compliqué de s'imaginer un métier tant qu'on ne l'a pas pratiqué. Donc, et c'est vrai que pour l'orientation, quand on choisit une étude, c'est en général pour faire un métier plus tard. Mais c'est vrai que si on ne sait pas déjà quel métier nous intéresse, bah, c'est difficile de choisir la formation qui permet d'accéder à ce métier-là. Donc je pense que c'est ça qui rend ça la chose compliquée.
Ouais, complètement.
Quoi.
Puis il y a aussi la question des stéréotypes. Je trouvais que ça se perd un petit peu, mais je trouve que ça, c'est encore présent. Le fait, maintenant, c'est les options au lycée, mais avant, les filières, nous, c'était S, ceux qui sont trop forts, ES, ceux qui savent pas quoi faire, et les L, ils vont rien faire du tout. Donc je trouve qu'il y a un peu ce truc de stéréotype qui est quand même présent. J'ai l'impression qu'on va pousser les élèves à choisir des options... plutôt scientifique par exemple parce qu'il y a plus d'avenir. Je sais pas ce que vous en pensez.
Clément ouais, B. Puis on a du mal quand on a 16 ans à se dire que ce qu'on aime, on pourrait en faire un métier.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on se dit bon bah les vrais métiers c'est quoi? C'est médecin, c'est avocat, c'est enfin c'est des métiers. Enfin on a une image des métiers très professionnels. Et en fait, c'est plus tard qu'on se dit, mais en fait, ce que mes passions, je peux les rattacher à des choses que j'aime, voilà. Et ça, forcément, à 16 ans, bah, on a juste envie de rentrer chez soi, de se faire un FIFA.
Ouais.
Et on se dit, mais en fait, je veux pas faire de FIFA. Ouais, mais en fait, si t'aimes le FIFA, c'est que t'aimes le foot, donc peut-être tu peux travailler dans le milieu du sport. Enfin, voilà. Et après, qu'est-ce que tu peux faire là-dedans? Voilà. Ça, c'est des choses que peut-être des réflexes qu'on n'a pas forcément aussi. Encore une fois, quand c'est assez tôt dans notre vie et qu'on a rien expérimenté pour le moment.
Ouais, clairement. Et j'ai lu dans une étude de L'Étudiant que les élèves se tournent en premier lieu vers leurs parents, puis vers Internet concernant leur choix d'orientation. Sauf que les parents, ils attendent, eux, un accompagnement des profs. Et les profs, eux, se plaignent de l'éducation nationale parce qu'il n'y a pas le temps et ils n'ont pas les compétences. Donc, je pense que globalement, c'est un peu le système qui bug quoi, complètement concernant l'orientation. Merci pour vos réponses. J'avais une deuxième question. Et cette fois-ci, on va rentrer un peu plus en profondeur sur le sujet en parlant des différents types de parcours. En gros, si on simplifie beaucoup, on peut diviser un petit peu en deux catégories les métiers. On va avoir des métiers assez sectorisés avec des formations plus courtes. Par exemple, un CAP boulangerie, CAP coiffure. En gros, avec ce type de formation, on a tendance à rester dans le même secteur. Les compétences sont limitées à un secteur. Et à côté de ça, comme on le disait, il y a plein de nouveaux métiers qui se créent, avec le numérique notamment, en général plutôt accessible avec des études longues et sur tout plein de secteurs. Donc j'aimerais savoir, vous, autour de la table, qu'est-ce que vous pensez de ces parcours, longs, courts? Est-ce que pour vous, il y a quelque chose qui est l'un plus pertinent que l'autre? Et puis vous, qu'est-ce que vous avez suivi comme type de parcours scolaire?
On peut demander à Tariq, ouais, parce que Tariq, t'as eu plein de vies de ce que tu nous as raconté tout à l'heure. Ça peut être intéressant d'avoir ton retour sur ça.
Moi, mon parcours, c'est que j'étais nul à l'école. Non, en fait, c'est pas que j'étais nul, c'est que j'aimais pas forcément l'école. Et Clément le soulignait bien, c'est qu'en fait, on nous met beaucoup de pression. Nos parents veulent qu'on soit avocat et médecin, sauf que nous, c'est pas ce qu'on veut faire, justement. Donc, on continue l'école parce que c'est obligatoire et parce qu'on a plein de rêves. Moi, j'ai fait un stage en troisième à la police, parce que j'avais pas trouvé stage. Donc, on m'a dit, j'ai un truc à toi, donc tu peux faire un stage. Ok, j'y vais. J'ai vraiment kiffé. Donc, il y a un moment de mon stage, je voulais être policier. Mais parce que quand on est jeune, en fait, dès que tu fais un truc, tu découvres, comme tu disais, tu vas jouer à FIFA, tu peux devenir journaliste. Tu dis, en fait, ça peut être pas mal, ça, quand même. Donc, moi, j'ai vraiment un parcours assez différent parce que je voulais absolument ne pas aller en filière pro. C'était un truc, c'était ma... Je crois que c'était mon projet.
Ta hantise.
Ah ouais, mon projet, mais c'était mon projet. Il faut que j'aille en filière générale. Mais je me suis clairement claqué en filière générale. Mais par contre, j'ai bossé un petit peu. Tu vois, c'est-à-dire qu'en gros, j'avais 6 premiers trimestres. Après, j'ai fait 8-8. Dans ma tête, je me suis dit, c'est bon, ça passe.
Bah oui, oui.
Mais non, ils m'ont dit non, non. Donc je vous racontais tout à l'heure, c'est que la nana, du coup, c'était orientation, vous voulez faire quoi? Elle m'a dit, écoute, t'as BEP compta, ou sinon, j'ai des offres pour toi, McDo.
Ouais, c'est terrible.
Bah, tu vas choisir la compta, parce que t'as pas le choix. Donc là, tu découvres l'orientation pro, et puis bah, après, tu dis non, en fait, l'école est pas faite pour moi. Donc en fait, ouais, je suis complètement d'accord. C'est en fait, surtout les étudiants en ce moment, avec la vie qui augmente énormément, tu peux pas travailler pour 1 200 euros, c'est pas possible, surtout quand tu fais des 5 ans d'études. Donc forcément, les gens, ils vont s'orienter vers l'image, vers les influenceurs, parce qu'ils disent, moi, je peux le faire. Et puis, ça crée des fois des teubés sur Internet, et ça dévalorise les métiers. Mmh. Mais voilà, donc je pense qu'il faut arrêter de mettre la pression aux enfants. Moi, ma fille, elle veut faire 4 métiers, mais je la laisse. Ouais, hier, elle a regardé un dessin animé sur le fait d'être policière, bah, devenir policière, bah vas-y, deviens policière. Et le soir, pompier, si tu veux. Mais il faut les laisser, c'est clair.
On a tous regardé Barbie super-héros et on voulait tous devenir super-héros. Enfin,
c'est... Moi, je voulais être Barbie, mais bon, c'est chacun son problème.
Mais pour revenir sur ce que tu as dit, pourquoi est-ce que de base, tu voulais pas du tout faire un bac pro, une filière professionnelle?
Parce que c'est un peu toutes les personnes qui étaient en bac pro, il y avait tous mes potes et moi, j'avais des potes, c'était pas des cassos, mais c'était... Voilà, je voulais pas être avec eux parce que je voulais pas être influencé. Et moi, déjà, quand j'étais jeune, j'étais vraiment... je le dis, j'étais cinéphile, j'adorais le cinéma. Et le cinéma, quand t'es jeune à Paris, bah... Mec, l'école, c'est impossible pour toi. C'était à l'époque 10 000 francs par mois. Mes parents, ils pouvaient pas, tu vois. Donc forcément, tu sors ta petite caméra. Et moi, je savais que je voulais faire que ça. Et puis après, plus le temps passe, et puis tu te formes, puis tu t'es tes potes qui sont dans ça. Ouais. Et puis c'est eux qui t'aident à te construire, à te motiver. Parce que, faut le dire, c'est si t'as un entourage vraiment qui t'entoure derrière et qui t'encourage, ça joue énormément sur ton mental. Parce que si les gens te disent, même si ta famille, moi, ma famille, ils m'ont toujours poussé, bah fais-le. Parce que tu vas un jour le regretter. Mais et je dénigre pas la filière pro parce que je pense que ça a pu m'apporter énormément de chance, mais pas en compta.
Ouais.
Pas en compta, parce que compta, je suis désolé pour les comptables, mais c'était pas pour moi.
Et est-ce qu'autour de la table, il y en a d'autres qui avaient des a priori sur les filières pro, par exemple, ou sur d'autres filières? Héloïse?
C'est vrai que oui, les filières pro, souvent il y a des préjugés, mais moi je trouve ça bien en vrai parce que on est vraiment initié dans le métier, il y a des stages, etc. Donc c'est bien aussi.
De toute façon, il y a de tout, quoi. Faut réussir à varier et à proposer. De toute façon, tous les types de formations sont existantes, donc faisables. Mais c'est vrai qu'après, il faut quand même prendre le temps. On avait une dernière partie à vous proposer, mais Suzanne, on n'a pas le temps. Je suis désolé. On parle bien, on échange, c'est le temps qu'on a malheureusement. Donc on va pouvoir vous proposer une petite conclusion. De toute façon, c'est un échange libre, donc oui. Libre à vous bien sûr de le poursuivre après.
Mais en tout cas, retenez bien que pour s'orienter, on conseille de prendre le temps, d'essayer, de tenter. Dans tous les cas, c'est pas le temps ni l'âge qui compte, c'est votre expérience. Et si une expérience scolaire ou professionnelle est négative, ça veut dire que vous savez déjà ce qui vous convient pas finalement. Et puis, il n'y a pas d'orientation idéale non plus tant que vous êtes épanoui. Un type de formation qui convient à certains ne conviendra pas forcément à d'autres. Merci pour l'échange en tout cas. Et puis, on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle thématique.
Ça va être trop trop chouette. Bah, là, c'est une des premières fois où le débat prend trop de place et que du coup, on n'a pas forcément le temps. On a pris le temps dont j'avais besoin et en fait, beaucoup de choses à dire. Donc, ça se voit que c'est un sujet important. Continuez à en parler autour de vous, bien entendu. On va vers nos partenaires maintenant. Unicité, la structure de volontaires en service civique. Aujourd'hui, on vous présente une nouvelle mission. C'est la mission Ambassadeur Santé. Et on revient juste après pour notre dernière petite partie, le jeu.
J'ai la ref avec Unicité.
Nous sommes avec nos partenaires du jour, Unicité. Ils reviennent ici pour vous partager une mission de volontariat en service civique. Le volontariat en service civique, ce dispositif d'engagement qui vous permet d'accompagner une structure, peu importe le type, dans une activité sociale. L'idée aujourd'hui, c'est de vous partager la mission Ambassadeur Santé. Et nous sommes de retour avec la coordinatrice d'équipe et de projet qu'on a reçue la dernière fois avec le partage avec Unicité. On va te faire partager quelques petits mots. Bonjour Charlène.
Bonjour.
Comment ça va?
Ben ça va bien.
Un petit peu malade, mais c'est normal, on est début janvier, il y a et le froid et les microbes et la maladie. Mais de retour là aujourd'hui, qu'est-ce que ça te fait? Là, je vais te poser une autre question en tant que coordinatrice, surtout que tu viens deux fois d'affilée. Voir au fur et à mesure de notre partenariat, des nouveaux volontaires passer à l'antenne, découvrir cet exercice radio. Toi, ça te fait quoi un peu quand tu les vois découvrir de l'autre côté?
Bah, c'est toujours rigolo de les voir arriver. Alors pour certains, ils connaissaient déjà l'exercice la dernière fois que j'accompagnais des jeunes. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu une découverte pour eux aujourd'hui. Donc c'est plutôt chouette de voir leur regard quand ils mettent les casques, voir ce qui se passe, d'être dans l'univers. C'est chouette de les accompagner.
Donc toi, tu restes en retrait, popcorn, tu
c'est
profites.
Ça, c'est ça. Voilà.
Donc je rappelle, tu es coordinatrice d'équipe et de projet ici sur la mission Ambassadeur Santé aujourd'hui qu'on vous présente. Autour de la table, en volontaire en service civique pour partager quelques petit mot avec nous, nous avons Théophile, Melvin, Alice et Adèle. Bonjour à vous quatre.
Bonjour.
Bienvenue. Alors là, ils entendent leur voix pour la première fois. Vous êtes donc quatre aujourd'hui. Généralement, lorsqu'on reçoit une cité, il y a deux équipes de deux. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Vous faites vous êtes deux membres de deux équipes ou alors il y a plus de deux équipes autour de la table, Adèle?
Oui, c'est ça. Bah là, on est deux équipes différentes et deux membres également, ouais, de chaque.
Alors, qui est avec qui? Je te laisse te rapprocher un petit peu du micro, ouais, pour qu'on t'entende.
Bah, du coup, moi, je suis avec Alice et Théophile et Melvin, du coup, sont dans la même équipe.
Ok. Donc, ça fait... vous avez commencé en septembre aussi, vos missions?
Début octobre.
Début octobre. Là, on l'annonce à chaque fois, il y a des temps de formation, puis le démarrage des différentes animations, des différentes activités. Vous avez eu l'occasion, vous, de démarrer des activités... des animations en groupe déjà avec le retour des vacances, Théophile?
Oui, on a déjà commencé à démarrer des animations. Alors nous, notre groupe, on s'est principalement pour l'instant concentré sur des stands. Donc c'est on met une table dans la structure de l'établissement et puis on va pouvoir animer justement sur la thématique que soit l'établissement aura choisi ou soit que nous on aura choisi. Donc on a plus commencé à faire des stands. Après, il y a des interventions, donc c'est un peu un format différent qu'on n'a pas encore trop expérimenté, mais qu'on va pouvoir faire par la suite parce qu'on a déjà pas mal de rendez-vous de prévus.
Et vous êtes dans un seul établissement actuellement, Melvin?
Non, on en fait plusieurs, mais là on est beaucoup au BTPCFA à Belbey. Et sinon, c'est principalement là-bas qu'on va le plus souvent pour l'instant.
Ok, donc vous êtes en structure, et pour vous, Alice et Adèle, pareil, vous êtes en structure pour l'instant où vous avez fait d'autres interventions, enfin un autre format d'intervention?
Nous, on a plus fait pour le coup des interventions qui ne sont pas des stands de prévention, donc auprès de collégiens, lycéens. Et on a pour le coup pas mal de parcours, donc là, ça va pas être une intervention, mais ça va être plusieurs interventions mises en place. Comme ça, ça nous permet d'aborder différentes thématiques. Et donc, c'est à chaque fois avec le même groupe. Et donc aussi, ça permet aussi de créer plus de liens, plus de confiance et donc d'amener les choses plus... profondément.
Je sais ouais, pas comment... d'une meilleure manière, parce que ouais. Vous avez un groupe récurrent avec lequel vous faites plusieurs ateliers différents.
C'est ça.
Donc vous parlez de thématiques assez sérieuses, parce qu'on parle de santé, on vous avait cité quelques exemples. À des jeunes, est-ce que vous, c'est pas... quand vous êtes en animation au départ, est-ce que c'est pas un peu stressant de se dire, je vais parler d'un sujet sérieux, d'un sujet du quotidien et puis de sujets qui peuvent me concerner aussi à d'autres personnes? Je me positionne avec la formation, avec les ressources que vous avez, vous vous positionnez en tant que, entre grands guillemets, professionnel. Et est-ce que c'est pas évident, est-ce que c'est pas stressant d'aller échanger et partager ce que vous avez appris avec d'autres jeunes, Adèle?
Si, forcément, je pense qu'il y a une pression, surtout sur certains sujets qui sont assez lourds, je dirais, par exemple sur la consommation ou bisexuelle affective. On n'a pas forcément le vécu des jeunes, donc ça peut être, il y a des enjeux. Après, nous, on n'arrive pas forcément dans cette idée qu'on est des professionnels. C'est surtout d'être, faire ça de pair à pair, donc de jeune à jeune. Et du coup, on essaye vraiment d'être au plus clair avec eux et de prendre en compte aussi bien leur vécu et le nôtre. Mais on fait vraiment en sorte que ça se passe bien. Et de toute façon, s'ils ont des questions, nous, on est là pour eux aussi. Donc, c'est vraiment dans cette idée-là que ça se passe au mieux, peu importe le sujet, quoi.
Ok. Donc, c'est plus de la sensibilisation un peu entre amis, entre grands guillemets, si on peut dire ça, Théophile, ouais. Ou pas?
Je dirais pas entre amis non plus, parce qu'on a quand même une position qui est pas, qui est pas amie avec ouais. eux. Mais on n'a pas non plus la même position que certains professionnels. Donc, il n'y a pas une position un peu descendante où nous, on est au-dessus d'eux, entre guillemets. C'est plus vraiment un échange. Et puis en fait, le fait de leur apporter des connaissances sur des thématiques, ça peut les ouvrir aussi à eux aller faire des recherches, pardon, ou aller voir d'autres structures qu'on leur a conseillées. Mais on n'est pas des amis, mais par contre, on est quand même plus, enfin, on reste très ouvert à la discussion. Et ouais, c'est ça. En fait, on est plus dans l'échange plutôt que dans comment dire. On n'est pas là pour les convaincre en fait de faire mieux ou de faire différemment. On est là juste pour leur ouvrir la porte Et puis après, eux, ils s'en saisissent ou pas, mais on n'est pas là vraiment pour les convaincre.
En fait. Semaine type, de manière générale, alors avec tous les échanges avec les différents volontaires, on sait qu'il y a des temps de regroupement où vous êtes tous ensemble, il y a des temps de travail de groupe où vous êtes la promo ambassadeur santé ensemble et des temps d'intervention. Vous, est-ce que vous avez une semaine type similaire à tous les groupes ou alors chaque groupe, Théophile, Melvin et Alice, Adèle, vous avez votre fonctionnement séparé tant que vous faites tout dans la semaine. Alice.
Bah ouais, je pense qu'on a tous des fonctionnements différents. On n'a pas du tout les mêmes semaines non plus parce qu'on n'a pas du tout les mêmes emplois du temps. Enfin après, on se retrouve quand même sur des temps ensemble, mais en termes d'intervention, etc., ça tombe jamais au même moment.
C'est pour vous, du coup, ça se déroule comment une semaine type?
Nous, le lundi, en général, on va pas mal travailler, faire tout ce qui est administratif. Après, tous les mardis soirs, on a un parcours qui a été mis en place à Saumur. Donc, tous les mardis soirs, on a une intervention.
Vous faites l'aller-retour?
Ouais.
Waouh. Un bon respect. C'est Saumur quand même, c'est 40
minutes. Ouais, c'est vrai, ça, c'est proche. Voilà. Après, il y a des interventions qui viennent se caler de temps en temps, le mardi, le lundi, le mercredi, ça dépend. Et le jeudi, du coup, on est en regroupement. Après, le reste du temps, on va travailler sur nos activités, créer des nouveaux outils. On réfléchit à ce qu'on pourrait faire. Enfin, voilà.
Ok, donc c'est du travail qui roule au fur et à mesure. En gros, vous prenez de l'avance pour pouvoir être au mieux, partager au mieux les différentes notions.
C'est
j'ai
ça.
Bien compris. Pour vous, Théophile, Melvin et le reste de votre équipe.
En fait, on n'a pas forcément une semaine type. Enfin, dans la globalité, on a tous une semaine au niveau de l'emploi du temps qui peut être similaire, c'est-à-dire que lundi, mardi, mercredi, on est avec notre groupe et le jeudi, on est en regroupement. Mais nous, ça va dépendre en fait aussi des interventions, justement des stands, parce qu'il y a des stands qui peuvent être récurrents. Donc ces stands-là, c'est souvent le midi en ce moment. Mmh. Donc on va souvent partir le midi. D'ailleurs, ce midi, on en a un juste après. Et sinon, en fait, ça dépend aussi des semaines, ça dépend aussi des formations qu'il y avait au début de l'année, parce que
okay.
Là, on en a un petit peu moins, mais il y avait pas mal de temps de formation qui était un petit peu intercalé entre les interventions ou les temps de travail, tout simplement. Donc je dirais pas qu'on ait une semaine type, juste qu'on s'organise en fonction de ce qu'on a à faire. Si on a des interventions à préparer, on va peut-être se laisser un petit temps lundi matin pour travailler là-dessus.
Donc en fait, au fur et à mesure des semaines, vous réorganiser votre semaine en fonction des interventions, surtout de ce que vous avez dit, pour pouvoir être le plus efficace.
Exactement.
Possible.
Voilà, c'est ça.
Ok. Donc pas mal de points organisationnels, soit à prendre, soit à confirmer, soit à conforter. Mmh. Plein d'arguments qu'on vous a partagés là aujourd'hui pour cliquer sur ce bouton réunion d'information et vous renseigner. Charlène, je te donne le mot de la fin. Tu peux récupérer le micro rouge, vert, le vert. Le mot de la fin. Qu'est-ce que tu voulais nous partager?
Oui, je voulais juste en profiter pour évoquer trois projets un petit peu que portent les jeunes, qui sont des projets importants, moi je trouve, dans leur volontariat cette année. Je l'ai juste rapidement, ils ont développé un escape game autour des addictions. Donc ça fait partie d'un outil comme un autre, on va dire, qu'on peut proposer à une structure, sauf que là, ça a nécessité quand même beaucoup de travail. C'est un escape game, ça se fait pas du jour au lendemain.
Ouais.
Donc il est plutôt chouette et il est prêt pour début février à être proposé aux structures. Donc on en commence à en parler un petit peu autour de nous. Ils ont développé aussi un jeu de plateau autour des addictions.
Okay.
Donc ça fait vraiment ces deux gros outils-là que je trouvais important de souligner. Et également, pour terminer, la journée du 15 mars qui va être une journée autour de la santé mentale positive, où là on est en train de la construire pour proposer différentes actions. Là, ça va être vraiment pour tout public, autour du bien-être, de la confiance en soi. On pourra aborder plein de choses. On est en train d'en dessiner les contours, mais voilà, je voulais juste souligner ces trois projets qui, du coup, chaque équipe a un projet.
J'ai la ref avec Fahadi sur Radio G.
Merci beaucoup à l'équipe d'Unicité. Alors, il y a quelques petites infos qui restent sur l'interview d'Unicité, mais vous pouvez le retrouver à partir de 14h sur le site radio-g.fr pour avoir le complément des informations. Mais la promotion des événements a été faite et des différentes dates. Donc, c'était l'équipe ambassadeur santé que vous pouvez retrouver au mois de mars dans leur événement. On prend le temps maintenant, les amis, de passer à notre dernier petit jeu. Vous allez voir, on a passé tous un bon moment. Vous aussi, et là, c'est soit le moment de se souder tous ensemble ou le moment inverse de créer des inimitiés.
Cr-
Clément B, bonjour.
C'est parti on pour le jeu du jeudi. Celui-là va être un poil plus compliqué que les autres jeudis, donc on vous laisse plutôt 4 minutes que 3 pour y répondre. Donc pour rappel, le jeu du jeudi, c'est une question, une énigme à laquelle vous devez répondre, donc faites des propositions, je vous dirai oui ou non, et essayez d'arriver progressivement à la réponse. Cette semaine, la question est la suivante. Le 23 mai 1920, le président de la République française, Paul Deschanel, disparaît subitement. Mais comment ?
Vous avez 4 minutes à partir de maintenant.
Et c'est parti.
Wow. Alors l'idée, proposer plein de réponses, hein. Videz votre cerveau, votre esprit. Et Clément vous dit oui, vous dit non.
Il est tombé dans un trou.
Non.
Il s'envole ?
Non.
Est-ce que tu peux répéter la question ?
Oui, bien sûr. Le 23 mai 1920, le président de la République française, Paul Deschanel, disparaît subitement. Comment ?
Est-ce qu'il disparaît, genre il meurt ou il disparaît, on le voit plus ?
Non, il meurt pas.
D'accord.
Est-ce que ça a un rapport avec la guerre ?
Non.
Ah oui ?
Ah d'accord. Est-ce que la date a un rapport ou...
Non, c'est une date pour placer un contexte, mais il n'y a pas de...
Ok. Une idée, Tariq, un truc qui te passe par la tête ?
Il se fait... comment on appelle ça ? Il s'est fait...
Carjacker.
non, mais il s'est fait...
Kidnappé ?
Non plus.
Je partais sur ce truc-là où il est parti en rendez-vous et on l'a plus jamais revu.
T'es sûr que c'est un président ?
Ouais, c'est un ancien président.
Il y aura
des indices hein, si.
Est-ce que la disparition est liée justement à sa fonction de président ?
Non plus.
Ça aurait pu arriver à n'importe.
Est-ce que c'est tragique ou c'est plutôt drôle ?
Alors, je reviens. Ça aurait pu arriver à tout le monde, mais le fait qu'il soit disparu longtemps, là, ça aurait pas pu arriver à tout le monde.
D'accord. Okay.
Et c'est tragique ?
Non, il est pas mort.
Ah, d'accord.
Tout va bien après.
Ah si, là, il est mort.
Aujourd'hui, c'est tragique.
Il est parti à la nage.
Non plus.
On propose le premier indice. Ouvrez bien vos oreilles, il est subtil. Ah bah, carrément subtil qu'on l'entend pas. C'est bon, on l'a entendu.
Ok.
Il a pris un train, il est jamais revenu.
Ok, donc on est sur une histoire de train, très bien. Donc il a pris un train, et alors qu'est-ce que tu entends par il est jamais revenu ?
Qu'est-ce qu'il s'est trompé de train ?
Non.
Il a pris une destination et il est parti très loin, il n'est jamais revenu, non ?
Non.
Le train est resté bloqué sur les rails et...
Non,
ça n'a jamais repris.
Attends, 1920, attends. Il n'a pas été confondu avec...
Non, c'est pas une histoire d'être confondu avec quelqu'un.
Il n'est pas allé dans les toilettes et la porte s'est fermée et on l'a plus jamais réouverte ?
Non.
Héloïse ?
Il a pris un train aller mais pas retour.
Non.
Oh, ouais, de fou.
C'est assez compliqué à imaginer quand même. C'est quand même assez loufoque. Hein. La réponse est dingue.
Porté disparu mais pas mort.
Et il part du train, il part d'un endroit, il va dans le train, hop, à l'arrivée il est plus là.
Qu'est-ce qu'il a sauté ?
Ah, il a quand les trains en a croisé un autre, il a sauté par un
plan. Non, il a pas sauté.
Fast and Furious.
Ça c'est Tom Cruise.
Il a pas sauté, mais bon, on avance.
Il s'est mis sous le train.
Non.
Alors, t'as dit 1920, c'est ça ?
1920.
Donc à l'époque, c'est les trains qui sont ouverts en plus, avec la marchandise, tout le monde peut aller à droite, à gauche.
Ouais.
Il a fait une autre destination sans le vouloir ?
Non, non plus.
Il était teubé, lui aussi.
C'est ça.
Il est resté dans le même train ? On sait qu'il est resté dans le même train tout au long du trajet ?
Ouais, il est.
Ouais, il n'a pas bougé de ce train-là, il est resté. Ouais.
On part sur le deuxième indice.
Le deuxième indice ? Reste quoi ? Une minute, ouais.
Il reste une petite minute. Écoutez bien les paroles.
Mais avec le temps, on se donnera, c'est sûr. Comme dans nos jeux d'antan, je suis tombé. Je suis touché.
Tombé de Matt Pokora, c'est l'indice.
Il a rencontré Matt Pokora.
En 1901, et c'est ça. Bonne réponse de Tariq.
Il est parti au concert de Matt Pokora.
Il a rencontré,
du coup, il a disparu. Il a dit je me casse.
Non mais oui.
Ok, tombé d'un train. Tombé, ok, d'un train. Très bien. Ça c'est ok. Maintenant il me manque comment en fait. Comment il est tombé d'un train?
En faisant ses lacets.
Et il vous reste 30 secondes.
Oh la vache.
Le plancher s'est ouvert?
Non.
Oh.
Non.
Il pensait que c'était l'arrivée.
Non plus.
Ah.
Héloïse.
On l'a poussé?
Non plus.
Ah oui, c'est vrai. il somnambule.
C'est pas somnambule, mais il y a un délire dans ce dire là. Enfin, il y a un délire dans ce truc là.
Il dormait.
Exactement, bonne réponse.
Mais c'est une dinguerie, bravo.
Bonne réponse d'Héloïse. Alors pour la petite info, donc en fait, donc il avait pris des médicaments et en fait il s'est endormi et en s'endormant il est tombé du train.
C'est un
il est tombé du train et donc il est alors mais du coup c'était au milieu du trajet donc en fait personne s'en est rendu compte parce qu'il était seul dans son wagon parce que c'était le président tu vois. Et donc en fait le train il arrive et les mecs ils arrivent ils font eh ben, il est plus là.
Ah ouais.
Et il est tombé, donc il s'est relevé. C'était en pleine nuit en plus, donc personne s'en est vraiment, enfin vraiment personne s'en est rendu compte. Il s'est relevé, il a marché, il a vu un village machin, etc. Et il est arrivé dans une maison, il a dit à quelqu'un: bonjour, je suis le président de la République. Sauf que à l'époque, il n'y avait pas les journaux, les médias, etc. Donc le gars, il dit: tu te fous de ma gueule, allez, etc. Et si après, avec les rumeurs qui sont arrivées, on l'a retrouvé, etc. Et le gars est tombé parce qu'il avait pris des médicaments, il s'est endormi et il est tombé du train. À l'époque, c'est bien ce que t'avais dit, les trains ouverts, machin, etc. C'était possible. Aujourd'hui, on tombe pas d'un train comme ça, quoi.
C'est un délire.
Il est tombé du train.
Bravo,
en plein milieu du trajet.
Bravo,
Louise.
Incroyable. Waouh. Oh, j'aurais pas aimé être lui.
Ah, il est manger. 3h du mat, c'est tu tombes. Tu fais, on est déjà tous tombés de notre lit.
Ouais.
On s'est déjà tous sentis cons. Merde. Là, quand tu tombes d'un train et tu vois le train s'éloigner, tu dis bon, là, je suis très con.
Et puis là, tu te sens con avec de l'herbe et de la terre. En plus.
C'est ça. En tant que président.
En tant que président.
Et Malpokora qui chante à côté.
C'est sur cette belle histoire de Matt Pokora, les amis, qu'on va vous souhaiter un bon après-midi. On va faire assez rapide, hein, il est déjà 14h. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous sur cette magnifique émission de GLRF. Il s'est passé beaucoup de choses avec l'équipe du jour, Clément B. Merci Clément, T, Héloïse et Suzanne. Et bien entendu, notre invité du jour, Tariq Ben Salah, réalisateur. Ça a été pour toi ?
Super.
On rappelle la sortie de ton film le 8 février au Pathé Angers, Le silence des autres, film sur la thématique de l'autisme et de l'immigration en France en partie. Gros thème, on va vous mettre le lien de la billetterie sur nos réseaux sociaux. Voilà. Et puis on vous recommande vivement d'aller voir ce film qui sort prochainement. Le cinéma, la culture déjà, c'est agréable et on a la capacité de pouvoir aller le voir, donc profitez-en et aussi soutenir les causes comme on en a parlé aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de nous choisir pour votre midi. On vous souhaite un très bon après-midi sur le 101.5 FM. On revient la semaine prochaine et ce soir, c'est Topette, 18h10, 19h. Et d'ici là, comme d'habitude, ouais, gardez le sourire, c'était presque parfait. Allez, à jeudi.
Cette émission vous a été proposée avec Alia 49, le J&G Connecté Jeunesse, Icar Club, la Maison des Adolescents 49, les Noxambules, la Mission Locale Angevine et Unicité. Retrouvez cette émission en podcast sur radio-g.fr et sur les plateformes de streaming. The fuck up. I could tell your whole damn career's going under. Last year I heated up the winter like the summer, so this year I'm messing up the budget. Sheesh. No, they don't know.